quand on voit ces enfants, c'est la guerre, elle a un visage. Eux, ils n'ont rien demandé. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi ils en sont là.
C'est évidemment, c'est marquant quoi, de voir ça sur une petite fille. C'est pas normal, quoi.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Jérémy Père et Joao Alencar. Ils ont vu, entendu et montré les victimes de la guerre, des enfants qui fuient l'Ukraine ou tentent d'y survivre. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Jérémy, salut Joao.
Salut.
Salut Yves.
Où êtes-vous en ce moment ?
On est à la rédaction, on est rentré vendredi et là on est juste à côté de la cafétéria en train de discuter avec vous.
Vous êtes parti combien de temps ? Vous avez commencé votre périple à Moscou, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Nous sommes partis à la veille de l'invasion, à la veille de la guerre, avec un périple un peu particulier. C'est vrai que nous sommes partis à Moscou à la base. Donc l'idée c'était d'aller dans les Donbass russes pour couvrir la guerre qu'on imaginait à la base au début de commencer dans le Donbass. Et donc c'est dans la nuit du 23 au 24 qu'on a été réveillé par la rédaction à 4h du matin. On est arrivé à Moscou à minuit. Et on a découvert que finalement l'invasion n'était pas forcément que dans le Donbass, mais ça arrivait à Kiev directement.
À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ?
La rédaction donc nous appelle, nous dit « Poutine a lancé l'opération militaire partout en Ukraine, il va falloir que vous vous prépariez assez vite parce qu'on part en édition spéciale ». Donc, vous mettez en duplex le plus vite possible pour parler justement du discours de Vladimir Poutine. Donc, il est très tôt le matin en Russie. Donc, on se met juste devant l'hôtel et on commence à se mettre en place et à raconter, surtout expliquer ce qu'a dit Vladimir Poutine.
À quel moment vous décidez de partir de Russie ? Pourquoi ?
Alors, pour tourner en Russie, il faut plusieurs autorisations. On avait notre visa, ensuite il faut une autorisation de tournage et ensuite il faut une autorisation dans le Donbass des autorités autoproclamées du Donbass. Tout ça a été lancé et avec le déclenchement de la guerre, on savait que ça allait prendre encore plus de temps. Donc on a travaillé à Moscou, on a fait une manifestation non autorisée, on a fait notre boulot, on a aussi fait rencontrer des moscovites pour avoir leurs sentiments sur ce qui s'était passé. On avait fait un tournage aussi avec des personnes qui avaient été arrêtées et avec leurs avocats, donc on avait fait à peu près tout ça et on savait que ça allait prendre énormément de temps et donc on serait plus utile de l'autre côté en Ukraine. Donc en avec la rédaction en chef, on s'est dit maintenant on pourra pas faire beaucoup plus, donc on a pris la décision assez vite. On est resté 3 jours
seulement, oui. Et l'idée c'était d'aller directement à Kiev. C'est pour ça que nous avons en accord avec la direction, avec la rédaction, de faire les périples, de repartir depuis Moscou vers Varsovie.
Parce qu'en plus, c'était à partir du moment où on a pris cette décision là, c'est toutes les interdictions de vol sont de tous les pays. Donc on est arrivé à l'aéroport de Cheremetyevo avec nos bagages, prêt à partir avec un vol à 21h. 2 heures avant, à 19h, vol annulé. Donc on s'est dit, ok, ça va être compliqué. Et ensuite, avec la production, le service prod et logistique de BFM, on a essayé de trouver des vols. Et on a fini par trouver un vol le lendemain, en croisant les doigts pour pas qu'il soit annulé, pour faire donc Moscou, Vienne, Varsovie.
On a perdu 24 heures pour pouvoir rejoindre Varsovie avant de pouvoir finalement aller en Ukraine.
On a pris la voiture à Varsovie et ensuite on a fait la route avec plusieurs petits moments de tension, enfin de tension entre guillemets, mais...
Est-ce que vous aviez un visa russe ?
Alors, on avait un visa russe déjà, ce qui nous aidait pas forcément à passer, enfin en tout cas c'est ce qu'on avait dans notre tête pour passer la frontière ukrainienne. Il fallait aussi qu'on passe avec une voiture polonaise en Ukraine et finalement tout s'est plutôt bien passé et dès qu'on est arrivé en Ukraine, vraiment, on passe le poste frontière, on arrive, on fait 10 minutes et là, premier checkpoint. Sans interprète, on avait quelqu'un au téléphone qui était dans une ville à côté de Lviv qu'on devait rencontrer le soir même. Et donc en fait, à chaque fois, c'était vu qu'il ne parlait ni anglais, qu'on était deux journalistes français, ils nous ont, premier checkpoint en tout cas, fait ouvrir le coffre, ouvrir tout le matos. Ils cherchaient des armes, ils nous demandaient est-ce qu'on avait pris des bidons d'essence, de la nourriture aussi, qu'est-ce que c'était, etc. Et donc à chaque fois, on appelait notre fixeuse, notre interprète, qui elle était à quoi 2 heures, 3 heures de route de nous, et qui leur parlait. Et ça a été ça pendant 10 ou 15 fois. Jusqu'à la retrouver assez tard le soir à côté de Lviv.
Juste, un fixeur, quel est son rôle ?
Un fixeur, ce qu'on appelle dans notre jargon un fixeur, c'est un interprète, c'est quelqu'un qui est notre interface avec le monde ukrainien, non seulement sur la langue, la culture. On va discuter avec lui pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'on aimerait faire, ce qui est possible de faire. Et lui va nous aider à traduire, à mettre en place un peu tout notre travail. Il est indispensable, sans lui, on ne peut rien faire.
Pendant 3 heures de route, oui, on avait passé une quinzaine de checkpoints faciles. Et au moins une dizaine de fois, on a dû appeler pour que ça parte en haut-parleur, pour qu'elle explique, voilà, ils vont venir bien chez moi et tout ça. Donc elle explique en ukrainien. Et d'ailleurs, on a essayé à chaque fois de ne pas montrer notre passeport, justement. On montrait la carte des presses. On évitait justement notre passeport parce qu'on avait des visas russes. J'avais même un visa biélorusse aussi de mon passeport pour d'autres émissions dans le passé. Donc évidemment, ça n'aidait pas.
À un moment, c'était vraiment très tendu. Vous avez été mis en joue par une Kalachnikov.
Oui, alors ça, c'était quand on avait décidé de partir de Kiev, donc bien 10 jours après, pour aller à Bila Tserkva, où il y avait une zone civile qui avait été bombardée, et on arrive à un gros checkpoint de sortie de Kiev qui était tenu par des militaires. Enfin, d'ailleurs, très difficile à voir si c'est des militaires ou des civils, parce qu'il n'y a plus vraiment d'uniforme. En tout cas, il y a des grosses kalachnikovs. Donc, on avait l'habitude, on en a fait peut-être des centaines, les checkpoints. Donc, je commence à sortir les cartes de presse, c'était moi qui étais au volant. Je vais à droite et notre fixeur derrière. Et là, il pointe sa kalachnikov, il nous voit, il voit presse sur la voiture et il fait sortez tout de suite. C'est la première fois. Et avec la kalachnikov vraiment braquée sur nous, vous sortez de la voiture, donc on sort de la voiture avec un réflexe de lever les mains. Et là, on sent que c'est tendu, que notre fixeur a un peu peur parce qu'il était plus jeune que nous, voilà. En tout cas, nous, on était un tout petit peu plus serein, même si on n'est pas vraiment serein. Et Joao était avec d'autres personnes à droite. Il nous demande d'ouvrir le coffre et on sort toutes les valises, tout. Et avec la calache pointée sur nous, heureusement, je regarde, il n'avait pas le doigt sur la détente. Son doigt sur la détente, ça aurait été un cran supplémentaire. C'est-à-dire que s'il y avait un mauvais geste, quelque chose, et même sans faire exprès, quoi. Et là, en fait, on voyait bien son doigt qui n'était pas sur la détente, mais quand même avec la calache pointée sur nous. Et à chaque fois, au lieu de nous montrer avec son doigt, ce qu'il voulait qu'on regarde, il le montrait avec son canon. Moi, j'ai fait tous les sacs. Il a vu l'ordi. Il a demandé à regarder, à ouvrir l'ordi. Et après, Joao, il lui a demandé de regarder les rushs de la caméra.
Oui, les rushs de la caméra. Et en fait, pendant qu'il montrait les valises, les trépieds, tout ça, en fait, juste avant, en arrivant au checkpoint, une dizaine de minutes avant, on avait croisé dans Kiev encore, sur la route, on avait croisé des chats ukrainiens. Et du coup, j'avais fait quelques images avec mon iPhone, avec mon portable, pour envoyer à la rédaction, pour montrer justement le déploiement de l'armée ukrainienne, tout ça. Et on sait très bien qu'en fait, tout ce qu'ils ne veulent pas qu'on filme, c'est tout ce qui est militaire. Donc on sait qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de filmer tout ce qui est militaire. Mais bon, nous sommes là aussi pour montrer, pour faire notre travail. Donc évidemment, on les filme discrètement avec les portables. Et donc à ce moment-là, je me dis tout de suite que s'ils regardent mon portable et qu'ils voient ces images-là, là, on prend près des risques, on aura peut-être un peu de soucis. Et donc, c'est à ce moment-là que pendant que Jérémy montre les valises, j'ai fait semblant d'appeler, j'ai fait semblant et j'essaye d'effacer. Donc, j'efface toutes les vidéos que j'avais faites, donc vidéos que je n'ai jamais pu envoyer à la rédaction finalement. Mais j'ai effacé très vite pour éviter qu'il voit ça. Donc après, il regarde la caméra, il regarde des tournages qu'on avait faits.
Et après, il nous a demandé nos passeports et là, il tombe sur nos visas russes. Donc on se regarde, on fait bon, ça va être compliqué. Et en fait, à la frontière ukrainienne, ils nous ont pas mis de tampons. Donc en fait, ils se demandaient comment on était arrivé de Russie jusqu'à Kiev.
Ça on n'explique pas.
Et après, il me dit mais c'est un peu du baragouinage entre l'anglais, l'ukrainien et notre fixeur. Et en fait, ils nous disent ok, on va devoir vérifier tout ça. Et on a la présence d'esprit dans notre boîte mail de montrer les billets d'avion. On est passé par Vienne, par Varsovie. Ils voient de toute façon que la voiture est polonaise. Et donc il y a eu 25 minutes de grande tension quand même. Et après, on est resté une heure et demie.
Et on s'est expliqué, tu as montré ton fil Twitter aussi pour montrer qu'on faisait le reportage qu'on a fait. On a montré, ok, on avait passé des visas russes, mais on avait aussi des visas américains, des visas US, afghans, on a visa d'autres pays, du Venezuela, donc d'autres visas des missions qu'on avait fait avant. Donc on disait, ok, on a des visas russes, mais nous sommes reporters, donc c'est normal qu'on voyage. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs types de visas, y compris un visa biélorusse pour moi.
Vous avez eu peur à ce moment-là ?
C'est pas les moments plus difficiles loin de ça de la mission et mon inquiétude est passée très vite.
C'était quoi les moments les plus difficiles du coup de la mission ?
Je pense que c'est le fait de s'habituer avec les sirènes et les bombardements. Je pense que c'est ça qui c'est une tension permanente en fait. La nuit quand on va se coucher et qu'on entend les sirènes.
Tous les jours, tout le temps, il y a ces sirènes, cette tension permanente. Vraiment tout le temps. Quand on rentre le soir après la journée de tournage, quand on monte, parfois on monte dans les abris, parfois on monte dans la chambre. Il y a toujours un pincement, quelque chose de physique quand on entend la sirène. Plus les jours avançaient, plus il y avait une joie quand notre fixeur nous avait fin de l'alerte. On commençait à crier, à se dire ah, ok, on peut souffler. Sauf que trois quarts d'heure, une heure après, ça repartait quoi. Mais
ouais, parce qu'il faut dire que nous, comme tous nos collègues, en fait, on peut pas à chaque fois qu'il y a une alerte, c'est-à-dire qu'il y a une menace de bombardement imminente. On ne peut pas aller se cacher à chaque fois, on ne peut pas aller dans l'abri à chaque fois, parce que sinon on passe la journée dans les abris.
Il y a eu des matins où on entendait une quinzaine d'explosions, et l'après-midi on est obligé d'aller tourner, parce que c'est notre métier, on n'est pas là pour rester à l'hôtel, donc on a pris le risque de sortir sous alerte, donc en gros on se met dans la voiture, on entend la sirène, pour aller à l'hôpital pour enfants.
On peut parler de ce reportage à l'hôpital pour enfants ?
On prend la décision donc de sortir, pareil, une alerte qui commence au moment où on sort, on se dit bon, c'était à quoi, 20 minutes de l'hôtel ? On se dit on y va, on n'a pas le choix, enfin voilà, il faut qu'on aille montrer ça. On arrive devant l'hôpital. Personne ne répondait vraiment au téléphone, il y avait des gardes armés, Et finalement, on arrive à rencontrer l'attaché de presse de l'hôpital. On est devant, elle nous dit « Ok, j'arrive ». Là, on entend une grosse explosion. On fait « Ok ». Donc, on redescend. Juste à côté, il y avait une espèce de souterrain. Donc, on se met à l'abri.
Bouche de métro.
Et là, il y a un des gardes qui vient nous dire « Ok, c'est bon ». Donc, on traverse l'hôpital. Et là, on prend tout de suite conscience voilà, que ça va être un tournage assez compliqué parce qu'on voit déjà, on rentre dans ce hall, on voit beaucoup de personnes, de gens assez fatigués sur leur visage. L'attaché de presse a un visage, mais... ravagé par la fatigue, bon, on se dit que ça va être compliqué. On voit donc des gens qui viennent donner des médicaments, des couvertures, de la nourriture. Et ensuite, on descend quasiment instantanément au moins deux, c'est le service radiologie. Et là, tout est transformé. On voit des lits partout, des enfants.
Le service de neurochirurgie infantile a déménagé au sous-sol de l'hôpital.
Là, c'est un patient difficile, un autre là-bas avec sa maman et encore un avec une sonde. On ne peut pas les opérer dans ces conditions, sans matériel stérile.
Ces enfants gravement malades n'ont pas pu être transférés. Ils n'ont pas vu la lumière du jour depuis maintenant plus d'une semaine.
On commence à rencontrer une première petite fille, une petite blonde qui a 12 ans, qui est avec ses nounours, avec son petit cahier à dessin et sa maman qui est à côté. Elle nous explique qu'elles étaient venues faire des examens au début de la guerre et qu'elles sont d'une certaine manière restées coincées là, qu'elles étaient là depuis le début de la guerre. Et qu'il y avait une espèce de vie parallèle qui était mise en place ici, quoi. Elle s'était fait des copines, la petite fille. La maman, elle était un peu avec son portable allongé. Et puis bon, première partie du tournage, l'innocence de cette petite fille. Qui sait qu'il se passe quelque chose.
Je dessine une robe. J'ai peur à cause des bombardements. Je suis là seulement avec ma mère. Mon frère et ma grand-mère sont loin.
Mon premier choc. Deuxième choc, on nous présente une neurochirurgienne qui s'appelle Alina, qui a 38 ans, qui elle aussi, c'est pareil, on voit ses traits, mais extrêmement fatiguée, au bord de l'épuisement, nerveusement, physiquement. Je pense que c'était très compliqué pour elle. Et on lui pose quelques questions, elle nous explique un peu ce qui se passe, et puis ensuite elle nous emmène dans son service, on passe porte en porte, et on arrive dans un couloir, un espèce de L avec des enfants qui étaient allongés, j'ai un petit bébé qui a un gros pansement sur la tête, qui est en train de bouger tout seul, il y a certains enfants qui n'ont pas leurs parents, et elle qui nous explique qu'ils peuvent rien faire, si eux ils n'ont pas pu être évacués en fait. Donc sur les 1000 qu'il y avait, c'est les 200 qui ne pourront pas être évacués.
Trop fragiles, tout ça, c'est pour ça qu'ils sont au sous-sol en fait, il faut imaginer quand tu dis dans son service. C'est pas son service habituel, ce sont des couloirs en fait. C'est au sous-sol aménagé, dans des couloirs avec des matelas par terre. Et c'est ça qu'elle appelle maintenant son service. C'est pour ça qu'elle disait même des opérations très compliquées. Elle ne pourrait plus faire ces opérations-là parce qu'il n'y a pas les moyens de les faire au sous-sol du bâtiment. Quoi.
On prend le temps, mais on essaye d'être aussi assez rapide parce qu'on sait qu'on est dans un endroit qui a déjà été frappé il y a deux jours. Enfin, en tout cas, pas ricochet, mais qu'une roquette est tombée dessus. On sort de ce reportage clairement marqué et on dit à la rédaction, ça va être un sujet qu'on veut impérativement monter, qu'on rentre à l'hôtel et on le monte le soir.
Entre
les duplex. Ouais.
Comment vous vous sentez à ce moment-là? Comment vous en parlez entre vous?
Je sais pas si on en a beaucoup parlé. Ça s'est vu sur nos visages. Moi, je sais que j'étais vraiment, vraiment ému parce que, ça parle à chacun. Évidemment, des enfants. Moi, j'ai une petite fille. On se projette évidemment. C'est quelque chose d'inhumain. C'est horrible de voir ces gens-là dans cette situation. Puis, en fait, surtout, on se dit que ça va pas s'arranger, quoi, et que ça va être encore pire.
Et en fait, là, c'était déjà la deuxième séquence qu'on avait liée avec les enfants, c'est-à-dire quelques jours auparavant qu'on était encore à Ouman. Ouman, c'est à 200 km de Kiev, plus au sud. C'est sur un axe qui a été bombardé dès le début, Ouman, parce que c'est sur un axe principal du pays, parce que ça relie Odessa, tout au sud, à Kiev. Donc les familles là-bas descendaient, on était dans un hôtel à Ouman avec un énorme parking souterrain. Donc il y avait plusieurs familles qui venaient, même la famille des salariés de l'hôtel. En fait, toutes leurs familles venaient passer la nuit au parking pour s'abriter. Et c'est là où on avait croisé plusieurs familles. C'est une séquence aussi très forte parce que justement, ça concerne les enfants. Et les enfants en temps de guerre, c'est évidemment l'une des premières victimes. Et là, on croise plusieurs familles qui ont plusieurs parents qui nous disent, qui nous expliquent en fait qu'on voit des enfants jouer comme un peu comme si de rien n'était. Et les parents qui nous expliquent qu'en fait, ils n'arrivent pas justement à raconter ce qui se passe, à expliquer ce qui se passe aux enfants, qu'ils n'héritent pas ça, c'est trop difficile, et qu'ils préfèrent inventer une autre réalité. C'était qu'en jeu, c'était un exercice militaire, tout ce qu'ils faisaient là-bas, c'était juste une sorte de jeu.
Je mens un peu, je leur raconte des histoires, je leur invente des jeux, mais ma fille aînée comprend tout. pas la petite.
Je suis là parce que la sirène a retenti. Quand ça arrive, on prend vite nos téléphones, nos affaires importantes, et on vient ici, au sous-sol. On ne se sent pas en sécurité, mais on n'a pas le choix.
Les parents, ils sont dans cette dualité qui est assez compliquée pour eux parce qu'ils doivent mentir à leurs enfants, mais ils vivent aussi ce qui se passe. Et on a rencontré le père, justement, qui nous a même interpellé en disant « Vous êtes une télé française. Moi, j'ai un message à faire passer à Vladimir Poutine. »
J'aimerais qu'il me regarde dans les yeux, et ceux de mes enfants, de tous ces gens qui se cachent. Qui lui a donné le droit de se comporter comme ça avec nous ?
Lui aussi très ému, très fatigué, parce qu'il faut comprendre que ses familles, à ce moment-là, elles faisaient 6 ou 7 fois l'aller-retour. C'est-à-dire qu'elles étaient dans leur chambre, il y avait une sirène, elles descendaient. Et ça, 6 ou 7 fois par jour, au milieu de la nuit, la journée, etc. Et donc il y a une fatigue psychologique qui est immense. Ils étaient à bout. Mais on sentait une détresse terrible de rien pouvoir faire, d'être avec ses enfants, de devoir faire ses allers-retours, de mentir, de voir ses enfants, de compter la nourriture. Et ça aussi, c'était aussi très, très marquant.
C'était assez touchant, peut-être l'une de ce reportage avec l'hôpital le plus touchant qu'on a pu faire, je pense.
Dans ce reportage-là, vous parlez à une petite fille. Comment est-ce qu'on fait pour, quand on est journaliste, poser des questions à une petite fille qui a fui sa ville, qui est dans un hôtel, dans un sous-sol ?
On ne sait pas dans quelle mesure elle comprend la guerre. Quelle mesure elle comprend la guerre. Donc,
commencer à lui demander ce qu'elle fait ici, ce qu'elle a fait dans la journée.
Comment ça s'est passé sa journée.
Comment ça s'est passé, avec qui elle est, pourquoi elle est là. Et après, au fur et à mesure des réponses qu'elle nous donne, on arrive à cerner un peu où elle en est. Celle qu'on a fait, a priori, comprenait un peu ce qui se passait et avait un discours à... assez enfantin, mais pas forcément naïf, justement, et elle savait ce qui était en train de se passer.
C'est évident, c'est marquant, quoi, de voir ça sous une petite fille, c'est pas normal, quoi.
Pourquoi ces sujets vous ont marqué particulièrement ?
La guerre, elle a un visage, en fait, avec ces gens-là, c'est de comprendre que c'est pas que des images de bombardement, que des combats, c'est que ça touche surtout les civils, qui sont dans des situations de stress intense, de panique, de savoir qu'ils partent juste avec un sac à dos. On en a rencontré beaucoup aussi à la gare. Quand on discute, vous allez où ? On ne sait pas, on part. Et ça, moi j'avais déjà vu ça quand on avait fait un vol retour, quand j'étais allé à Kaboul avec Juan Palencia, on avait déjà vu ça. Et là, on l'a revu à 3 heures de vol de Paris. Quand on voit ses enfants, c'est la guerre, elle a un visage. Eux, ils n'ont rien demandé. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi ils en sont là, etc.
Vous êtes rentré vendredi en France, chez vous. Comment est-ce qu'on en parle de tout ça, de ces visages, de ces témoignages à votre famille, à vos proches ?
Quand on rentre, tout le monde nous pose énormément de questions. Comment c'était d'abord déjà à la rédaction. Et puis après, quand on rentre chez nous, moi avec mes proches, en gros, on en parle. On fait un gros débriefing et puis après, on essaye de passer à autre chose. Parce que sinon, en fait, on n'avance pas, quoi.
Oui, c'est un peu pareil pour moi. On essaie de parler, même si, disons, pour certains proches, surtout mes parents, par exemple, j'essaie de ne pas raconter non plus tous les détails. Par exemple, le détail du checkpoint qui était tendu, de ça. Au bout d'un moment, il faut essayer de couper un peu, même si c'est sincèrement, c'est impossible. Surtout que c'est pas comme si on était parti sur un événement qui était fini, qu'on rentrait après la fin d'un événement. Et là, on peut en parler, mais au bout d'un moment, c'est l'événement, il est fini. Tous nos collègues sont là-bas. Tous les gens qu'on a côtoyés pendant une dizaine de jours, évidemment, ils sont encore dans une situation dramatique. Donc, on prend des nouvelles d'eux quotidiennement aussi. Donc, notre fixeur, on lui écrit quasi tous les jours, je pense. Et donc, c'est très difficile de couper, sans doute. Je pense que c'est quasi impossible.
On était, d'une certaine manière, heureux de rentrer. De revoir nos proches, etc. Mais à partir du moment où on a passé la frontière polonaise, on s'est dit, en fait, c'est très paradoxal, mais on part, on laisse des gens, le conflit, comme disait Joe, continue, et un sentiment un peu d'abandon des gens qu'on a rencontrés. On sait qu'ils sont encore dans des situations extrêmement compliquées, et de savoir que, de toute façon, à mon avis, à partir du moment où on a pris la décision de rentrer, enfin, qu'on devait rentrer, c'est pas forcément nous qui avons pris la décision, mais ça faisait partie du processus avec la rédaction chef, on sait qu'on va y retourner. C'est une certitude. On verra dans quelles conditions. Mais
justement, là, c'est quoi le programme des prochains jours ? Vous savez quand est-ce que vous repartez en Ukraine ?
Là, on a 15 jours de repos, mais on va se repréparer mentalement à y repartir. Mais c'est en fonction de l'évolution du conflit et des besoins de la rédaction chef.
Oui. Comment toi, tu vas passer tes prochains jours ?
Je reste encore quelques jours à Paris. Après, je pars en Provence pendant une semaine, histoire d'essayer de couper un peu plus avec Paris, mais même si, évidemment, on restera en contact en permanence, je pense.
Et moi, je reste à Paris, mais essayer de couper parce qu'on ne coupera pas vraiment.
Merci en tout cas, bon courage pour essayer de couper, pour vous reposer en tout cas. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Yves.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.